Chapitre 50. Palais d'Ishak Pacha, Nakhitchevan. Idil avait opté pour une jupe blanche, presque transparente, à discret reflet rose, la couleur qui mettait le mieux en valeur sa peau ambrée. Ses seins n'étaient tenus que par un long turban habilement noué et fixé par de fines lanières. Quelques franges blanches et roses, accrochées à un petit soleil de nacre autour de sa gorge, caressaient son ventre plat, nu et impeccablement bronzé. Les quatre autres filles se tenaient debout à côté d'elle, droites, fières, bras croisés sous la poitrine, jambes légèrement écartées. Elles aussi avaient choisi des tenues de danseuses orientales. Leurs longues jupes colorées, ornées de chaînes, de pièces d'or et de paillettes, scintillaient sous l'éclairage doré du lustre de cuivre. Belles, divinement belles, Idil devait l'admettre. Le décor, sobre, tranchait avec le raffinement des candidates en lice. La pièce ressemblait à une salle de danse. Les murs et le parquet étaient lambrissés de bois d'acajou. À chaque extrémité, une porte était gardée par un homme armé. Le balafré entra par celle de droite. Cette fois, il se présenta. Il portait le nom étrange de Zeytin. Il expliqua un peu à la manière d'un présentateur de jeux télévisés, en beaucoup moins sexy, qu'une seule d'entre elles allait rester. Il désigna les lattes de bois qui recouvraient le mur face à elle. L'une d'elles, à mi-hauteur, était percée de deux trous.
« Je ne suis ici que pour vous transmettre les ordres du maître, » précisa Zeytin. « Il se tient derrière la cloison, vous observe déjà depuis de longues minutes. C'est lui qui désignera sa favorite. Il éliminera tour à tour celle qu'il jugera les moins désirables. Jamais vous ne devrez connaître son visage, ni même son nom. Celle d'entre vous qui restera devra l'appeler Cortès. »
Idil observait avec intensité les deux orifices noirs dans le mur devant elle. Par leur canal, on entendait le bruit étouffé d'éclats de voix, comme si ce Cortès, derrière la cloison, parlait à quelqu'un d'autre, avec violence. Peut-être était-il tout simplement au téléphone. « Ne te déconcentre pas, ma belle, » pensa Idil. Depuis le début de la matinée, elle se forçait à oublier la petite Amane, sa licorne, ses yeux gris et tristes. Elle avait soigneusement caché dans la doublure de son sac le pendentif que la fillette lui avait confié en cachette, même si elle avait hésité un instant à balancer le bijou dans les toilettes ou dans la poubelle la plus proche. Cette histoire de collier puait les emmerdes. Après, elle y penserait après. Elle déciderait une fois le casting terminé pour le collier, pour la fillette, pour toutes les choses louches qu'elle découvrait dans ce palais du bout du monde. Pour l'instant, elle ne devait avoir qu'un objectif. Celui qu'elle était toujours parvenue à atteindre, sans même avoir à forcer son talent, un don, un fardeau parfois. La chance de sa vie aujourd'hui. Qu'un homme crève de désir, juste en levant les yeux sur elle. Si ce milliardaire voulait s'offrir le fantasme de l'émater sans se dévoiler, il allait être servi. Elle écarta un peu plus les jambes et se cambra. Ses yeux en amande se plissèrent et fixèrent les deux trous avec une intensité à faire brûler les planches. Chaque fille prenait une pose différente, toute incroyablement provocante. Elles acceptaient sans retenue les règles imposées par le voyeur invisible. Cela dura une ou deux minutes, puis Zeytin se rapprocha du mur et colla son oreille à l'orifice. Il se redressa et se dirigea vers la fille la plus âgée, celle qu'Idil avait considérée dans le quart comme sa plus grande rivale. À tort. Quasiment nue, la femme au regard de foudre ne supportait pas la comparaison avec le corps juvénile des quatre autres. À l'évidence, sa crinière de cheval rebelle n'avait pas suffi à séduire Cortès. Bonne perdante, elle haussa les épaules avec un sourire amusé, comme pour signifier que ce n'était pas grave. Zeytin lui fit signe de sortir par la porte de droite. La fille parcourut quelques mètres. Ses pieds nus semblèrent danser sur le parquet. Cortès avait tort, pensa Idil. Cette fille était la grâce incarnée. Un garde se poussa. La fille, provocante, frôla son corps de fauve contre son uniforme avant de poser la main sur le bouton doré de la porte, sans se retourner. La suite se déroula en moins de 3 secondes. Zeytin enfonça la main dans sa veste, en sortit un fin revolver à long canon, visa la nuque de la fille et pressa la détente. La fille s'effondra dans une mare de sang au pied du garde impassible. Jamais elle ne comprendrait pourquoi elle était morte. Elle était la plus chanceuse des cinq. Idil bloqua le hurlement dans sa gorge. Les trois autres filles, d'instinct, firent comme elle, comme si, immédiatement, elles avaient compris l'inimaginable. comme si, en un éclair, elles avaient pris conscience des véritables règles du jeu. Un jeu mortel. Dans quel repère de fou idylle était-elle tombée? Dans quel piège monstrueux s'était-elle laissée prendre? Zeytine rangea son arme dans sa veste avant de frapper dans les mains, comme pour signifier que la partie reprenait.
« Mesdemoiselles, » fit sa voix de diable obséquieux, « les règles demeurent les mêmes, une seule restera. À vous de jouer. Cortès apprécie les femmes exceptionnelles. »
Tout se bousculait dans les pensées d'Idylle. Survivre. C'était le seul mot qui lui venait distinctement en tête. Cortès appréciait les femmes exceptionnelles. Tout son corps devait transpirer la séduction, la moindre parcelle de sa peau, sans aucune retenue, sans aucun tabou. La minute qui suivit lui parut interminable. Zeytine colla son oreille à l'orifice, puis se retourna. Juste un regard. La plus jeune des filles, celle au visage de poupée de porcelaine, anticipa le verdict. Vive comme l'éclair, elle s'élança avant même que Zeytine ne se redresse. Elle agrippa le bras du garde avec une force de tigresse et le jeta à terre. Son pied nu lui écrasa le visage pendant qu'elle saisissait le bouton de la porte. Zeytine, surpris, n'avait pas eu le temps de porter la main à sa veste. La fille avait déjà ouvert la porte. La balle se ficha entre ses deux omoplates. La poupée de porcelaine, encore hissée sur la pointe des pieds, se cambra une dernière fois, comme une quille qui hésite à tomber, puis bascula à la renverse. Sa tête, en cognant le parquet, fit un atroce bruit de fruits secs qu'on écrase. Le second garde, qui avait calmement pris le temps d'ajuster la fuyarde, reposa avec méticulosité l'AK-47 le long de sa jambe. Une panique intense submergeait Idylle, comme si cette pièce carrée n'était qu'un cube hermétique dans lequel le niveau d'eau montait inexorablement. Elle se força à ne pas laisser sa respiration s'emballer. Elle devait réfléchir, faire appel à son instinct de survie. Il lui restait une chance. La plus belle vivrait, c'était la règle. Elle n'avait aucune envie de comprendre les raisons qui poussaient ces malades à assassiner les perdantes, ces filles magnifiques, plutôt qu'à les violer ou à en faire des putes de luxe. Cela défiait toute logique. Elle n'était plus que trois. Elle observa les deux autres survivantes et analysa ses possibilités. La plus belle était incontestablement la fille maigre au visage de top modèle. L'autre était moins jolie, moins bien proportionnée. Moins bien qu'elle aussi, c'est ce qu'Idylle aurait dit. Un nouveau répit. L'autre fille serait la prochaine sur la liste macabre. Toutes les trois l'avaient compris. Les femmes sentent cela entre elles, savent d'instinct qui est la plus séduisante de la meute, comme des hommes devinent sans se battre qui est le plus fort. La condamnée fit un pas en avant et se planta droit devant les deux orifices de la cloison. Son ventre un peu gras se mit à onduler. D'abord lentement, puis de plus en plus rapidement. La fille se déplaçait avec d'incroyables gestes félins. Elle dansa, encore et encore. Les pièces d'or de sa jupe et de son soutien-gorge, animées par les torsions de son corps de liane, brillaient de mille éclats dans la cage d'acajou. Elle avança encore, vibrante, poitrine gonflée. Idylle demeurait incapable du moindre geste. Les bras de la danseuse s'agitaient, gracieux, des ailes de libellule. Presque sans arrêter leur course, ils glissèrent dans son dos. Le soutien-gorge tomba en un bruit de monnaie qui roule. La fille se mit à tourner sur elle-même. Ses seins magnifiques jaillirent, dansèrent, tour à tour présentés aux deux gardes, à Zeytine, à l'invisible Cortès. Petit à petit, la toupie ralentit pour s'arrêter enfin. La fille se tint immobile devant Cortès, comme si la cloison de bois n'existait pas, lui offrant ses seins de vierge. Respectant l'effroyable rituel, Zeytine s'approcha de la bouche qu'on devinait derrière l'orifice. Un sourire sadique accroché aux lèvres. La danseuse pleurait maintenant. Un torrent de larmes inondait ses yeux peints en or, coulait en filons pour zébrer de traces dorées son visage, son cou, sa poitrine nue. Belle, intensément belle, émouvante, tragique. Dans l'instant, Idylle pensa qu'aucun homme ne pouvait demeurer insensible à une telle sensualité. Doucement, Zeytine leva son revolver. La fille aux yeux d'or ne bougea pas. Seules les larmes coulaient. Elle ferma les yeux une dernière fois. La balle lui traversa le cœur. Idylle avait eu le temps de réfléchir. Elle n'était plus que deux, et une évidence s'imposait. L'autre était plus belle qu'elle. pas mieux foutue, pas plus sexy, mais rien ne pouvait être comparé à son visage d'ange. Aucun homme ne pouvait résister au désir de voir le plaisir s'inscrire sur un tel visage, de contempler un orgasme le transfigurer, de l'engendrer. Idil allait perdre. Idil allait mourir. Ce n'était plus qu'une question de secondes. Idil agit d'instinct, sans réfléchir, sans préméditation, comme un animal piégé. Elle hurla et se jeta sur le visage d'ange, les 10 ongles en avant comme autant de poignards. La fille n'attendait pas le danger de ce côté. Elle n'eut pas le temps de se protéger. Les ongles s'enfoncèrent dans sa chair et labourèrent le visage parfait, du front aux joues. Cela dura moins de 5 secondes. Lorsqu'Idil se recula, la fille s'effondrait sur ses genoux, les mains ouvertes sur sa figure en sang. La blessure n'était pas bien grave, bénigne même. Quelques égratignures superficielles. Dans quelques jours, quelques semaines, le visage aurait retrouvé son charme angélique. Le destin n'était pas aussi patient. Idil l'avait compris. Zeytin serrait à nouveau le revolver devant lui. La fille se tenait le visage dans les mains, refusant de le montrer au tueur. Zeytin avança au-dessus d'elle, baissa son revolver et tira comme on achève une bête à terre. Le corps maigre de la fille s'affaissa sur le parquet. Zeytin se tourna vers Idil.
« Bien joué, petite futée !»
Un sourire diabolique éclaira son visage.
« Tu as triché, mais, après tout, ce n'était pas interdit. Approche. »
Idil hésita.
« Approche, approche ton oreille. Cortès veut te parler. »
Par les deux portes, les gardes évacuaient les cadavres des 4 filles. Idil, au bord de la crise de nerfs, se colla contre le mur. La voix grave et traînante de Cortès s'insinua au plus profond de ses pensées.
« Félicitations, Idil. Tu es l'élu. Plus encore que tu ne le crois. Tu ne peux pas te rendre compte de la chance que je t'offre. Rien de plus normal. Tu es sous le choc. Tu en prendras conscience dans quelques heures, dans quelques jours. Tu n'es plus seulement une très jolie fille, Idil. Tu es désormais un joyau inestimable. » Une pièce unique. Tu commences à comprendre, Idil ? Je te raconterai l'histoire, celle du théorème de Cortès.